Antoine Febvre, vous êtes professeur à la Sorbonne, à Berkeley. Vous êtes aussi à l'École pratique des hautes études, enfin d'études universitaires importantes. Et vous vous occupez d'un sujet qui habituellement n'est pas le fait des universitaires, l'ésotérisme. Vous avez écrit un ouvrage intitulé « Accès de l'ésotérisme occidental ». Pourquoi un universitaire s'intéresser à un sujet comme celui-là?
Vous savez, à la Sorbonne, il y a de nombreux enseignements. J'appartiens à ce qu'on appelle l'école pratique des hautes études dans la section des sciences religieuses. Et nous sommes plus de 40 professeurs. Il y a des spécialistes dans l'histoire du protestantisme, du catholicisme, du bouddhisme, etc. Et on a eu l'idée de créer, en 1965, une chaire d'histoire de l'ésotérisme chrétien, qui s'appelle maintenant « Histoire des courants ésotériques et mystiques dans l'Europe moderne et contemporaine ». Je suis en outre germaniste de formation, et j'ai une chaire de germanistique également dans une université. Je pense qu'il était indispensable de créer un enseignement spécifique. C'est d'ailleurs très peu un seul enseignement spécifique. Songez par exemple que jusqu'il y a un certain nombre d'années, si un étudiant, un chercheur avancé voulait faire une thèse, un travail quelconque, mettons sur Paracelse ou sur Jacob Boehme par exemple, il cherchait un patron de thèse dans le domaine de la philosophie. On lui répondait non, ce ne sont pas des auteurs qui ressortissent à la philosophie, ils ne sont pas assez philosophes, ce sont des rêveurs, ce sont des imaginatifs, ce sont des théosophes. Si ce chercheur était germaniste, par exemple, puisque ses auteurs sont allemands, ceux que je viens de citer, on lui disait « ça n'est pas de la littérature ». Ça n'est pas de la littérature, ça n'est pas Goethe, ça n'est pas Schiller, n'est-ce pas, ça n'est pas Hölderlin. Par conséquent, ça ne nous intéresse pas. C'était la même chose d'ailleurs dans l'histoire des sciences. Vous savez qu'on peut faire des thèses de médecine, par exemple, dans le domaine de l'histoire de la médecine. Eh bien, on disait, un médecin comme Paracelse au XVIe siècle, bien que ce soit un personnage considérable, ça n'est pas vraiment de la médecine ni de l'histoire de la médecine. Si bien que des pans entiers de notre culture, en Occident, au sens large, ont été occultés, ont été mis sous le boisseau. Non pas tellement parce qu'il y avait une méfiance quant au contenu des doctrines dont il s'agit, mais peut-être surtout parce que on a vu sévir longtemps, encore un petit peu maintenant, mais moins je crois, une ultra-spécialisation dans des domaines extrêmement précis, comme si les sciences humaines, disons, puisque c'est de celles-là qu'il s'agit, étaient dans des bocaux, bien fermé, comme sur un rayon d'apothicaire, avec des étiquettes. Et alors, philosophie, littérature allemande, littérature anglaise, français, littérature comparée, etc. Et il se crée de plus en plus maintenant des vases communicants. Et je dois dire que ce qu'on appelle l'ésotérisme, enfin ce qu'on est convenu d'appeler ainsi, c'est par définition même une discipline, entre guillemets, transdisciplinaire.
Oui, mais est-ce que c'est pas parce que justement l'université, et particulièrement l'université française, a été marqué fortement par le positivisme d'Auguste Comte, par une pensée très rationnelle, très...
C'est vrai aussi. Il est certain que jusque à une époque assez récente, je pense jusque dans les années 50, au début des années 60, ce positivisme a sévi. Il sévissait encore bien davantage jusqu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup moins maintenant, certainement. Ce positivisme... disons-le aussi, ce scientisme qui s'était infiltré dans les sciences humaines, qui sévissait beaucoup, concernait, était lié à des attitudes idéologiques et même politiques ou anti-religieuses, disons-le, disons les choses telles qu'elles sont. Mais à cela a fait suite, depuis quelques petites décennies, une sorte d'indifférentisme en matière de métaphysique, en matière de religion. Et je crois que l'intérêt pour certains domaines, jusqu'ici occultés du savoir, cet intérêt a pu se développer grâce à l'indifférence que un certain nombre d'universitaires ont manifesté à l'endroit de ces choses-là. À l'hostilité a fait place une forme d'indifférence dont nous avons profité en quelque sorte. Il n'y a plus cet esprit anticuré, de type radical socialiste tel qu'on l'entendait, vous savez, anticlérical tel que cela pouvait exister encore il n'y a pas tellement longtemps en France notamment. Ça fait place à une indifférence dont ont profité, je répète, ces domaines-là.
Et quand on parle d'ésotérisme, de quoi parle-t-on exactement ?
Eh bien, quand on parle d'ésotérisme, on pourrait définir l'ésotérisme de deux manières. Une manière philosophique, conceptuelle, je dirais, et puis une manière historique. Je crois qu'on pourrait commencer par la manière historique, parce que elle me semble plus aisée d'accès. Ce que j'appelle ésotérisme, qu'il est convenu, enfin, non seulement moi-même, mais un certain nombre de collègues et de chercheurs qui s'occupent de ces questions-là, ce que nous appelons ésotérisme, c'est l'ensemble, on pourrait dire que c'est l'ensemble d'un certain nombre de domaines de la pensée occidentale. Ce sont des massifs assez précis dans l'histoire de la pensée occidentale pour nous en tenir à la période qui est celle des temps modernes, c'est-à-dire depuis la fin du Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Je dirais qu'on arrive à faire en gros le tour de presque tout ce qui concerne l'ésotérisme sur le plan historique lorsque l'on étudie, disons, la franc-maçonnerie spéculative, j'entends, sous son aspect symbolique, sous son aspect initiatique.
Non pas la franc-maçonnerie comme club social,
par exemple
en Amérique.
Voilà, c'est cela. Disons que la franc-maçonnerie a véhiculé plus, moins dans les pays anglo-saxons que sur le continent européen d'ailleurs, des courants ésotériques, des courants de pensée, a suscité un certain nombre d'ouvrages extrêmement intéressants en raison de son aspect symbolique. Je pense notamment au haut grade qui s'ajoute au grade bleu, apprenti, compagnon, maître. Il y a toute une série, une hiérarchie de haut grade dans certains rites, dans certains rituels maçonniques, qui vont, comme vous savez, jusqu'à 33. Et c'est très ésotérique, c'est-à-dire souligner là l'aspect initiatique et l'aspect symbolique de ces rituels et de ces initiations. Et puis alors, il y a aussi ce que j'appellerais la théosophie surtout chrétienne essentiellement. Quand je parlais d'ésotérisme, au demeurant, je parle de l'ésotérisme occidental. On pourrait parler d'ésotérisme oriental. Je parle de l'ésotérisme occidental, c'est-à-dire des trois religions abrahamiques, juives, chrétiennes et musulmanes.
Car il y a un ésotérisme oriental.
Il y a un ésotérisme oriental dont personnellement, qui m'intéresse beaucoup personnellement, mais que je ne cherche pas à définir, dont je ne parle pas publiquement parce que je ne suis pas compétent, je ne suis pas orientaliste. Mais disons qu'il y a un certain nombre de dénominateurs communs en ce qui concerne l'ésotérisme des trois grandes religions abrahamiques, c'est-à-dire du tronc d'Abraham, juif, chrétien, musulman. Alors, cela, justement, me conduit à évoquer un deuxième massif dans le domaine de la culture occidentale pour ce qui concerne l'ésotérisme, c'est la Kabbale, n'est-ce pas ? Je parlais de la tradition juive. Eh bien, on peut dire que l'ésotérisme juif, c'est essentiellement la Kabbale. La Kabbale qui, d'ailleurs, existe aussi dans le domaine chrétien sous une forme chrétienne, notamment depuis la fin du XVe siècle. Il y a une cabale chrétienne, surtout au XVIe, XVIIe siècle, c'est-à-dire qu'un certain nombre de penseurs chrétiens ont utilisé les schémas symboliques de la cabale juive, par exemple l'arbre des 10 séphirotes, pour développer une théosophie spécifiquement chrétienne.
Qu'est-ce que vous entendez par théosophie ?
Alors justement, la théosophie, ça entre dans la définition philosophique de l'ésotérisme. Je vais y revenir dans un tout petit instant, si vous voulez. Je dirais que sur le plan historique, il y a aussi alors la théosophie chrétienne. Elle commence avec Jacob Böhme. Je vais vous dire dans un instant ce que j'entends par là. Il est mort en 1624, c'est le prince des théosophes allemands. C'est la philosophie ésotérique à l'état pur, si vous voulez. C'est-à-dire que la théosophie juive, c'est la Kabbale. La théosophie européenne, sous sa forme la plus pure, c'est en gros le courant issu de Jacob Böhme, qui a eu, il est vrai, quelques prédécesseurs. Il y a aussi alors le rosicrucisme, c'est-à-dire qu'au début du XVIIe siècle, avec la parution d'un certain nombre d'ouvrages, 1614, 1615, 1616, a commencé tout un courant dit rosicrucien, et puis qui est orienté vers une philosophie de la nature, vers l'alchimie. Il y a aussi alors également l'alchimie, comme chapitre de l'histoire de l'ésotérisme occidental. Il y a l'astrologie également. Voici, nous avons là historiquement l'ensemble des domaines qui constituent l'ésotérisme occidental. La théosophie, alors, pour répondre cette fois d'une façon un peu plus précise à votre question, je dirais que ce serait la philosophie, je mets le mot entre guillemets, je l'emploie plutôt au sens où on l'emploie en alchimie. La philosophie, c'est l'alchimie, c'est la pensée alchimique. Le philosophe, c'est l'alchimiste, disait-on jadis, ou plutôt l'alchimiste, on l'appelait philosophe. La théosophie, c'est la philosophie, entre guillemets, qui sous-tend toutes ces pensées, qui sous-tend tous ces courants. Étymologiquement, cela signifie sagesse de Dieu, n'est-ce pas? C'est une gnose, c'est une forme de connaissance. La théosophie en Occident, qui s'épanouit vraiment au XVIe siècle et au XVIIe siècle, et qui a des continuateurs, c'est une forme de pensée qui s'efforce de saisir, de comprendre, de voir intuitivement, sous forme de vision intellectuelle et intérieure, ce qu'on pourrait appeler les rapports qui unissent Dieu, l'homme et l'univers. C'est d'ailleurs une expression empruntée à un très beau titre d'un livre du plus grand théosophe français du XVIIIe siècle, Louis-Claude de Saint-Martin, qui écrit un livre en 1782 qui s'intitule « Tableau naturel des rapports qui unissent Dieu, l'homme et l'univers ». Une saisie intuitive des rapports qui unissent Dieu, l'homme et l'univers, en suivant une certaine forme de rationalité, mais non pas un rationaliste, j'appellerais une rationalité symbolique. Alors, il y a toujours, ça définit aussi la théosophie, cela, il y a toujours un point de départ, il y a toujours un support de méditation. La plupart du temps, ce support de méditation, ce sont les Écritures saintes.
Vous me dites beaucoup de choses à la fois et qui soulèvent beaucoup de questions en moi. Et la première, elle est très simple, elle est presque banale. Vous me parlez de mystère, d'initiation, etc. On a l'impression que l'ésotérisme, c'est lié à un secret. Il y a un secret auquel seulement quelques-uns accèdent. Est-ce que je comprends mal alors?
C'est une question extrêmement importante. En effet, je crois que vous avez tout à fait raison de la poser. Elle est essentielle. Et selon moi, l'utilisation que l'on a fait, souvent indûment, de cette notion de secret, en l'absolutisant, a un grand désavantage, c'est-à-dire que on a eu tendance à associer la notion d'ésotérisme à la notion de secret. Il y a en effet, dans quantité de doctrines, chez quantité de penseurs qui entrent dans les catégories que j'ai résumé à l'instant à grands traits, on parle souvent chez eux de disciplina arcani, la discipline de l'arcane. En effet, on dit par exemple, celui qui fait partie d'une société initiatique ne doit pas dévoiler les détails de son rituel, ou l'alchimiste ne doit pas dévoiler ses arcanes, cela repose, pour nous en tenir au christianisme simplement, sur une très ancienne idée, n'est-ce pas, ne pas jeter des perles au pourceau. Mais d'un autre côté, on dit qu'il ne faut pas que la lumière reste sous le boisseau. Alors, je crois que le secret n'a besoin de personne pour être gardé. Le secret, selon moi, la véritable signification du secret initiatique ou ésotérique réside dans le fait que personne ne peut, du premier coup, sans préparation, sans méditation, sans une forme d'ascèse intellectuelle et spirituelle, accéder à la compréhension d'un texte révélé à plusieurs niveaux. On a d'abord, vous savez, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que le secret se garde lui-même. Le secret est dans les choses mêmes. Il n'est pas défendu par quelqu'un. Le secret défendu par quelqu'un dans le domaine de l'ésotérisme, je crois que ce n'est pas très sérieux. Si vous ouvrez l'Ancien Testament au chapitre de la Genèse, les premiers chapitres, par exemple, de l'Ancien Testament, la création du monde en 6 et 7 jours, vous allez avoir d'abord une interprétation littérale. Vous pouvez prendre cela à la lettre. Ensuite, vous avez une interprétation allégorique. Et comme on distinguait au Moyen-Âge, il y a une interprétation symbolique. une interprétation morale. Et il y a une interprétation que l'on appelle anagogique, du grec anagone, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, c'est l'interprétation suprême qui n'exclut pas les autres, mais qui se développe elle-même en d'autres interprétations qui ne se contredisent pas les unes les autres, qui se développent en bouquet de sens. Et pour avoir une véritable compréhension en profondeur du livre de la nature, tel qu'il se présente à nous, et du livre, et du livre révélé, par exemple l'Ancien Testament ou le Nouveau, eh bien, il faut pénétrer de plus en plus dans les arcanes de ces textes. La notion d'ésotérisme, finalement, c'est l'idée, essentiellement, selon laquelle les grands textes fondateurs, les grands mythes fondateurs et les grands textes fondateurs, par exemple ceux des religions révélées, sont compréhensibles à plusieurs niveaux qui ne se dévoilent pas d'un seul coup à n'importe qui.
Alors l'adepte de l'ésotérisme, c'est le savant.
C'est le savant, mais il y a petite et grande exégèse. C'est le savant qui est capable de faire non seulement une exégèse purement historique, archéologique, ce qui a son intérêt bien sûr, mais qui sait pénétrer dans le sens profond des Écritures. En s'autorisant d'ailleurs dans le domaine chrétien de ce que dit saint Paul, l'esprit scrute tout jusqu'aux profondeurs divines.
Oui.
Comme si saint Paul avait donné, n'est-ce pas, l'autorisation de pratiquer ces herméneutiques, qui à mon avis définit essentiellement, c'est à mon avis l'essentiel de la théosophie. Alors le théosophe en Occident, c'est celui qui va en même temps chercher des rapports entre ce qu'il va trouver dans les Écritures, les symboles, les images qu'il va trouver dans les Écritures, et les choses de la nature, les rapports entre le microcosme et le macrocosme. D'où aussi, si tout est dans tout, n'est-ce pas, mais pas n'importe comment, à ce moment-là, l'étude de n'importe quelle chose importante, que ce soit l'étude des plantes, du corps des animaux ou des astres, va nous permettre de mieux comprendre l'Écriture et vice-versa.
Mais on a l'impression, à lire ces textes, enfin, l'impression peut-être d'un naïf et d'un non-initié comme moi, on a l'impression qu'il s'agit, je reprends là d'ailleurs un terme de votre vocabulaire, d'un vagabondage de l'esprit.
Mais il y a les vagabonds et il y a les pèlerins. De même qu'il y a, vous parliez tout à l'heure, du savant qui scrute les Écritures, mais on peut les scruter avec les yeux de chair et avec les yeux de feu. C'est tout différent. Il y a aussi les yeux de feu, comme disait Henri Corbin. Ceux qui pénètrent et qui font remonter les choses à leur véritable signification. Eh bien, ceux qui en restent aux yeux de chair peuvent faire de très bons savants sur le plan, disons, de la méthode expérimentale, de l'archéologie scientifique, mais ils n'ont pas nécessairement les yeux de feu. Ça peut être donc des... Si nous nous contentons d'étudier les choses selon méthode aristotélicienne, rationaliste, nous perdons de toute manière dans la multiplicité des significations. Nous nous perdons dans la multiplicité des significations parce que notre quête n'est pas orientée par un sens, avec un grand S. Et une quête orientée par un sens, c'est une quête qui a son orient avec un grand O, eh bien, c'est la quête du pèlerin. Et à cet égard, pour répondre, je distinguerai le vagabond et le pèlerin. Et le pèlerin, il observe une certaine discrétion, mais en même temps il parle, il chemine, comme le dieu Hermès, n'est-ce pas ? Aussi bien tout l'ésotérisme est-il placé sous le signe d'Hermès. Justement, à propos de ce que vous me disiez tout à l'heure, le secret, revenons-y. Je crois qu'il y a un paradoxe dans la notion, d'une part, de silence et d'autre part, de communication. Je parlais d'herméneutique, d'interprétation des Écritures, de communication, de vase communicant. Le dieu Hermès est le dieu de la communication. Hermétisme, n'est-ce pas, c'est la communication. Eh bien, il y a un paradoxe, en effet, pour préciser un petit peu, c'est tout de même plus subtil que ce que je disais à l'instant, cette notion de secret. C'est un paradoxe, finalement. Mais je crois que tout ce qui est vrai, tout ce qui a du sens, vraiment, c'est paradoxal. C'est ainsi que j'aime beaucoup, par exemple, une image de 1555 qu'on trouve dans un livre d'emblème. Elle a été rééditée deux ou trois fois ces dernières années, d'ailleurs, de Achille Bocchi, dans un livre d'emblème italien. Il nous montre un Hermès, c'est très beau, qui tient un chandelier à cette branche dans une main, mais ce qui est plus intéressant, ce dieu Hermès, il touche sa bouche avec... il porte l'index à sa bouche comme pour intimer le silence. C'est le dieu du logos, le dieu de la parole, le dieu de la communication qui dit qu'il faut faire silence. Ça veut dire... Il parle, mais en même temps il se tait. Il se tait, en même temps il parle. Aussi bien sous le signe du paradoxe, sans lequel il n'y a pas de symbolisme de toute manière, que l'on peut, je crois, symbolisme vivant, que l'on peut, je crois, placer tout ésotérisme, comme d'ailleurs toute approche vivante et véritable du mythe.
Comment expliquez-vous que certaines institutions officielles, l'université à laquelle vous appartenez, l'Église, par exemple, les Églises officielles, se sont méfiées de l'ésotérisme ?
Oh, il y a bien des raisons à cela. C'est une question extrêmement... Il est difficile de répondre simplement à cette question parce qu'il y a différentes raisons et cela dépend aussi chaque fois de quoi l'on parle. Prenons par exemple la franc-maçonnerie qui, à l'origine, était très marquée par un symbolisme de type ésotérique, plus encore que maintenant. Ça l'est redevenu beaucoup d'ailleurs dans le courant du XVIIIe siècle. Mais en 1738, quand il y a eu cette condamnation, cela signifiait essentiellement, je crois pouvoir le dire, que le pape admettait difficilement que des protestants et des catholiques puissent s'asseoir ensemble autour de mêmes réunions pour parler librement de questions de symbolisme et d'autres choses. En ce qui concerne la théosophie, au sens où j'essayais de la définir rapidement tout à l'heure, eh bien, je m'aperçois que si certains grands théosophes comme Jacob Böhme, par exemple, ont eu des difficultés avec l'autorité, l'autorité luthérienne en l'occurrence, aux alentours de 1620, c'était parce que le magistère entendait rester le seul dépositaire de la prophétie. Par prophétie, j'entends bien sûr le passage du message divin, son explicitation. Le magistère a tendance à se considérer comme le dépositaire par excellence, de l'esprit qui souffle, du savoir, n'est-ce pas ? Bon. Mais je remarque également que la plupart des grands théosophes occidentaux, je connais surtout les chrétiens, n'ont pas eu de problème avec les églises. Prenons par exemple le plus grand théosophe, qui était en même temps un immense savant allemand du XVIIIe siècle, Oettinger, qui a vécu de 1702 à 1782, c'était un grand prélat de son église luthérienne. C'était un grand pasteur, c'est un homme qui était très bien considéré. Le plus grand théosophe allemand du XIXe siècle, prodigieux théosophe, et grand philosophe en même temps, Franz von Baader de Munich, qui est mort en 1841, a une œuvre extraordinaire, qui a connu énormément de lecteurs encore aujourd'hui, Baader, mais il n'a jamais été à l'index. Par conséquent, je crois que dans le public, on a tendance à accorder trop d'importance à certains faits historiques qui, au regard des grands problèmes, n'en ont pas tellement que cela. Par exemple, l'alchimie. Les alchimistes ont été condamnés à plusieurs reprises par les papes, mais il faut voir chaque fois dans quelles conditions et à propos de quoi. C'était parce que, je ne veux pas ici faire un cours sur des dates, des époques, etc., mais disons qu'à plusieurs reprises, c'était parce que un certain nombre de gens prétendaient faire de l'or et fabriquaient de la fausse monnaie. Et puis, on pouvait penser aussi qu'il fabriquerait réellement de l'or, je ne le pense pas. Enfin, on a pu le penser, et évidemment, les condamnations s'expliquent là, non seulement pour des raisons économiques et de méfiance, mais aussi parce que on pouvait se sentir en droit de se méfier des magiciens. L'ésotérisme et la magie, ce sont deux choses différentes. En revanche, l'alchimie spirituelle, à ce que je sache, n'a jamais entraîné une condamnation. Parlons par exemple de l'Église catholique romaine, une condamnation de l'Église
en tant que telle. Mais par ailleurs, un certain mépris de l'université, vous le reconnaîtrez bien. Vous l'avez d'ailleurs.
Oui, c'est un peu comme ça. De l'université, oui, mais cela, un mépris de l'université, mais aussi bien. Mais ce n'est pas un mépris dont l'ésotérisme au sens large, où nous en parlons maintenant, aurait été la seule victime. Mais également la pensée religieuse elle-même. Un certain mépris de la part des églises constituées, on comprend. La théologie n'est pas la théosophie. Je pense que l'une complète très bien l'autre. Elles se complètent très bien l'une et l'autre. Mais si on est un théologien, on n'est pas nécessairement un théosophe. Certains sont les deux en même temps, n'est-ce pas ? C'est très rare. Je pense par exemple à Saint Bonaventure. C'est un prodigieux théologien qui était aussi, peut-on dire, par bien des côtés, un théosophe. Il y en a d'autres, surtout d'ailleurs au XIIe, XIIIe siècle, peut-être un peu après. Mais à partir du moment où c'est la religion tout entière qui est soupçonnée d'irrationnel, d'irrationalisme, n'est-ce pas, l'ésotérisme du même coup a encouru le mépris, le désintérêt, je veux dire, de la part des universitaires patentés. Mais encore une fois, indépendamment de toute question d'intérêt personnel en ce qui concerne ces domaines, je crois que on se rend compte maintenant où l'on voit, on étudie les choses avec d'une façon un petit peu plus désintéressée, de quelque bord que l'on soit, que c'est très important pour comprendre des parties entières de notre culture occidentale.
Antoine Fèvre, je vous remercie.